qu'il a été diverses choses, mais il était rédacteur en chef du Bureau régional de France 300, 1937-1977, rédacteur en chef du Bureau France 3 Lorraine. Il a participé à la semaine immédiate de l'ICN, mais il était grand reporter en 81 à Antenne 2. Il a été en France le présentateur des journaux télévisés Télématin 84-87, rédacteur en chef du 87-88, correspondant à Londres, puis il ouvre en 2001 le bureau de France 2 à Bruxelles et crée la rubrique Sans frontières dans le cadre de Télématin.
J'ai fait tout ça.
Je pense que c'est pour beaucoup, le premier contact, effectivement, un contact important avec Christian Marie-Jo. C'était Télématin où il intervenait très régulièrement depuis Bruxelles. C'est un journaliste européen, puisqu'il est cofondateur de l'Europresse, association des journalistes européens à Paris. Donc, je pense que j'ai encore de l'en une petite partie. Et je pense que cette énumération montre que c'est un journaliste de télévision, c'est un journaliste de terrain. C'est un journaliste qui s'est confronté en réalité de différents pays et c'est un journaliste apparemment de genre parlementaire qui est ouvert sur les questions européennes. Alors, il est maintenant médiateur de France Télévisions, mais médiateur de l'information. Je crois que c'est important de le préciser. Et il est bien évident que bien souvent, on fustige pour la télévision ou on le critique, considère que telle chose n'a pas été traitée, ça fait trop de temps, elle n'est pas mise en bonne position, et toutes choses dont on peut parler et dont vous pourrez parler ensuite avec Christian Marie-Jo. Je pense que, tel que l'on a évoqué la possibilité de son intervention, c'est qu'il nous brosse déjà un panorama de son expérience de journaliste de télévision, de journaliste européen, puis sa transition vers le fait d'être devenu médiateur d'information. Mais à la différence d'autres médiateurs de d'autres chaînes, il le fait largement à travers les émissions des autres médiateurs des familles. Alors, je ne voudrais pas être plus bavard et lui laisser la parole bien évidemment. Je pense que dans Christian Marie-Jo, c'est prévu de traiter chaque partie et de laisser la parole pour qu'on puisse, sur chaque thème que je viens d'évoquer, dialoguer avec lui. Et puis, au terme de son intervention, nous nous réunirons pour notre équipe, l'honneur, au cas par la même équipe, et au cours duquel vous pourrez dialoguer directement avec lui. Voilà. Je ne vais pas être plus long, parce que c'est pas comme vous êtes venu écouter. Je dirai quelques mots à la fin sur le club audiovisuel et nos prochaines activités, et je vous passe la parole. Merci.
Merci. Merci, monsieur. Merci, M. Delévise. Je constate que ce n'est pas une eau de Vichy que je bois. Oui, c'est comme à la télé, le micro ne marche pas. Mais ça m'y est, M. Delévise l'a fait exprès. Ah. Alors peut-être que je m'applique, que je parle devant le micro. Vous m'entendez un peu? Pas du tout. Ah, faut carrément je le mette dans les narines, c'est ça?
Sinon, je vous
donne celui-là. Non, je vois l'ingénieur du son qui me fait signe qu'effectivement, c'est dans les narines et pas dans l'oreille. Bon, vous m'entendez? En tout cas, bah, écoutez, première chose, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci vraiment d'être venus. C'est très agréable de rencontrer autant de personnes pour parler d'une chose aussi c'est latent, quoi. La télé, on en a marre, 3h50 par jour en moyenne, et puis c'est pas bon, on s'en plaint. Vous savez qu'en tant que médiateur, je reçois 32 250 plaintes par an. Il faut avoir le moral, hein. Et je ne vous cache pas que je ne l'ai pas toujours. En tout cas, je suis ravi d'être là. C'est très sérieux parce que je me déplace rarement, et difficilement, comme vous avez pu le constater. M. Delévise a trouvé les mots qu'il fallait pour que je vienne vous rencontrer, qu'on vienne échanger. Parce que finalement, le rôle du médiateur, c'est de donner la parole aux téléspectateurs, mais surtout les rencontrer. Alors voilà qui est fait ce soir. J'espère que nous aurons un entretien positif, j'en suis convaincu, et surtout que je vous apporterai des réponses à vos préoccupations, à vos soucis, et que je transmettrai en tant que pasteur, c'est le mot que j'utiliserai souvent à la rédaction. Alors, on passe pas à un extrait de ma plaisanterie du samedi?
Mais c'est ça, l'être vu, Claude Louis? Il est pas là ?
Non, il est pas là. Bon,
oui.
Bon, on passe pas, donc je ne dérange pas. Je vous invite à regarder ça le samedi à 13h30.
Oui.
Non, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, bon, à l'apéro, on mettra, il n'y aura personne, on mettra le DVD.
Non, mais ça va, il est en discussion. Hein.
La technique, non, la technique est absente.
Non, non, mais ça arrive.
Bon, ce que je vous propose, c'est surtout qu'il y ait un échange entre nous. Je ne vais pas vous faire un discours pendant deux plombes, parce que d'une part, c'est pas mon genre, et ça va vous lasser, là aussi. En revanche, rapidement vous dire mon parcours que M. Delleguise a présenté. Je suis un homme du public, service public. J'ai commencé en 71, le RDF Alsace, Oblagaï, comme on dit là-bas, et j'ai vraiment vécu à l'intérieur du service public avec bonheur et fierté. Et vous savez que le service public a trois médiateurs, la 2, la 3, la 5, et le programme 4, en revanche, TF1 n'a pas de médiateur. Relation téléspectateur commerciale. Nous, c'est pas...
Oui, c'est plutôt du médiateur.
Vous voyez, le générique, j'ai voulu, à gauche, les citoyens, et à droite, la rédaction et le travail. Avec une musique un peu soft, pas trop agressive. Bon, alors, c'est comme en il y a un mec en papillon derrière moi. Est-ce qu'on peut... Alors, je me tais peut-être... Je vais me taire. C'était l'émission du samedi, il y a 8 jours. Thierry Cuvillier, qui est le nouveau rédacteur en chef du 20h, qui fait un remarquable travail, qui est le producteur de l'émission que vous connaissez peut-être, Un œil sur la planète. Alors, j'avais les trois téléspectateurs. Il y en avait deux qui étaient très très violents dans leur courriel. Vous êtes nuls, vous n'êtes pas bons. Quand je les ai appelés, ils étaient surpris que je les appelle. Alors.
Mais comme elles sont plus pauvres,
hein. Non. Vous entendez un peu? Dès que ça vous ennuie, vous faites signe, hein, on arrête. Alors ça, c'est l'affaire que vous connaissez tous. Des invitations à nous envoyer des courriels, car si vous ne voulez pas participer à l'émission, on cite vos lettres, comme c'était le cas. Bon, je pense qu'on ne va pas regarder parce que ça dure 20 minutes. Hein. On ne peut pas tout regarder. Est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on regarde la moitié, un quart, un tiers? C'est vous qui décidez, c'est vous le patron?
Et surtout, il propose une solution, à savoir réexaminer les différences de situation de mutilation sociale sur les humanités et les perceptions qui a fait perdre en 2005 3 milliards d'euros d'actifs.
Monsieur, je vous remercie pour cette première intervention. Alors, c'est régulier, vous avez été accompagnement, vous avez même pris des notes. Alors, je précise que vous avez été responsable de service de l'étranger et des morts. Et puis, vous aussi, et toujours producteur de l'émission en action internet, qui m'a fait toujours plaisir à revoir, qui d'ailleurs été décidé. Ensuite, c'est tout fait, maintenant, là, il y a des contrats, comme on dit en anglais. Quelle réponse pouvez-vous donner
à la première remarque que j'ai de tout à l'heure concernant la priorité donnée aux faits divers, notamment concernant la vie, sur une partie qui est en départ. La vie, il faut savoir que je ne parle que du vainqueur de la semaine. Hein. On a réalisé trois sujets dans la semaine, d'une minute trente à peu près. C'est beaucoup moins que l'enquête, les enquêtes qui ont été réalisées par exemple sur le jeu étudiant, puisque on en parlera tout à l'heure, il y a une nouvelle priorité, on parle de priorité dans 20 heures, on peut faire des enquêtes assez longues. On a fait 4 minutes, 4 minutes sur le logement étudiant, une en septembre, par exemple, un petit sur la ville, mais aussi un reportage très long, 3 minutes 30 sur l'accès des élèves handicapés à l'école, précisément après le débat, je me souviens du débat entre Sarkozy et Cédric Royal, on va revenir trois suites sur ce débat qui s'est engagé en présidentiel. On a constaté d'ailleurs que les gens n'étaient pas complètement tenus, donc là il y a aussi une distance qui est prise par rapport à la parole politique. Donc, il faut citer d'autres exemples. On a fait un reportage sur la chair, le gel.
Bon, je pense que ceux qui ont vu l'émission ne sont pas surpris. Ceux qui ne l'ont pas vu sont frustrés, tant pis pour eux. Mais voilà, en gros, le médiateur, tous les samedis, c'est 20 minutes avec deux téléspectateurs ou trois, il n'y aura plus que deux puisque l'émission est réduite, avec un journaliste qui répond. Et là, l'axe de l'émission, c'était, il y a un nouveau rédacteur en chef et ça va changer. Et c'est vrai, le courriel est là pour le prouver, ça change, vous le saluez, enfin, certains d'entre vous l'ont dit, on parle plus d'étrangers, plus de dossiers de fonds et moins de faits divers et maltraités. Car effectivement, c'était un peu la spécialité du 20h avant l'été. Alors, on peut peut-être enlever la tronche, là. Hein? Ce qui me fait concurrence, lui, là. Hein? Non, mais en plus, il me ressemble, c'est un clone ou quoi? Non, ce que j'attends de vous, parce que c'est une rencontre, c'est qu'on échange entre nous. C'est vraiment ce que vous allez me dire par rapport à ce que je vais vous dire qui va nous permettre d'avancer. Et je suis sérieux, c'est pas unilatéral. Mon parcours, monsieur de l'Église a bien voulu préciser un petit peu ce que j'ai pu faire dans cette maison qui est le service public. Et c'est vrai que j'ai toujours été malheureusement un ayatollah entre guillemets, c'est-à-dire un cadre. Mais pas un homme de terrain en tant que tel, parce que je n'ai pas été un grand reporter sur le terrain, en Afghanistan, en Afrique, dans les lieux sensibles. J'ai toujours été chef de quelque chose, mais toujours à l'écoute de la rédaction et des téléspectateurs. Et moi, j'étais un Européen convaincu, et j'ai pensé qu'on allait pouvoir parler de l'Europe. Malheureusement, on n'a pas parlé de l'Europe. Quand j'étais à Londres, mes activités étaient divisées en trois parties. La première, c'était les bus rouges qui roulent à gauche. Vous ne savez pas ça, hein? Ah ben si, ils roulent à gauche. Oxford Street, ils roulent à gauche. Après, c'était les attentats. Malheureusement, l'Irak, 90-96, très nombreux. Et puis la famille royale. Ah, les frappes de la famille royale. On m'appelait le dimanche matin. Dis-moi, il paraît que Diana, bon, allez hop. Je courais comme un fou pour faire un plateau, comme on dit, en situation, devant Buckingham, pour dire Diana, en prenant le Daily Mail ou le Sun, voilà ce qu'elle dit. Mais j'avais évidemment pas lui dire Diana, j'avais évidemment pas de reportage, pas d'enquête, mais il fallait de l'Angleterre, parce que ça fascine les gens. L'Allemagne ennuie tout le monde, l'Angleterre amuse tout le monde. C'est vrai que, vous savez que l'anglais, comme la langue qui est la plus utilisée parmi nous, enfin, on essaye. Et l'allemand, c'était une langue, moi, ma génération, c'était la première langue que j'ai apprise à l'école. l'anglais est la seconde, et maintenant c'est évidemment l'inverse, c'est l'allemand. Malheureusement, on apprend de moins en moins. Et mon homologue à Berlin, à Bonn à l'époque, et puis Berlin ensuite, me disait, mais comment tu fais, t'es tout le temps à l'antenne, moi j'arrive pas. Mais j'ai quand t'emmerdes tout le monde. Moi j'aime les gens qui frappent la famille royale, tu te rends pas compte. Les ici les machins, les débiles, les peu, Windsor, Ascot, formidable. Puis les attentats, malheureusement tragiques, j'arrivais toujours évidemment après l'attentat. Mais c'est tout, moi j'étais impressionné. La première fois que je suis arrivé à Belfast, quand vous voyez une ville, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, une ville divisée par des barbelés, même communauté chrétienne, protestant, catholique, avec des barbelés, avec les mêmes maisons de gens modestes, chaque côté, mais qui ne communiquaient pas, hein. C'était pas possible. Quand j'allais dans un pub, parce qu'on aime les pubs, les journalistes, on disait, attends, on va pas dans celui-là. C'est protestant, ah bon, pas là, c'est l'IRA, ah bon, mais justement, j'ai des contacts. Alors fais gaffe, change de taxi. Ouais. C'était passionnant, mais en même temps, c'était horrifiant. On est en Europe, 90, il n'y a pas de liberté de circulation. Je faisais des plateaux sur une rue, on me disait, celle-là, c'est la plus mortelle, parce que l'IRA tire de ce côté-là, et puis les protestants de l'autre côté. Alors je faisais des plateaux, et j'expliquais, oui, là, il y a eu cette nuit 2 morts, là 3 morts, là c'était l'IRA, là c'était les protestants et les intégristes de Yann Bessley. C'était, moi j'ai trouvé ça horrifiant, mais l'info passionnait. Et Londres était une expérience pour moi passionnante. Et en plus j'ai vu le départ de Margaret Thatcher, passionnant aussi. Et l'arrivée du très terne John Major, j'ai pas connu l'arrivée de Tony Blair. J'étais rentré entre temps. Mais c'était une remarquable expérience. Alors là, effectivement, l'information internationale, entre guillemets, passionnait mes rédacteurs en chef, mes ayatollahs, comme je les appelais toujours, parce qu'il y avait Tasquay. C'était ou Buckingham ou Belfast. Mais ça bougeait. C'est vrai que journalistiquement, c'est passionnant. Est-ce que j'ai bien fait mon métier à ce moment-là? Est-ce que j'ai bien expliqué les enjeux? Je ne suis pas sûr. Je rencontrais les 2 prix Nobel de la paix, protestants et catholiques, notamment John Hume, un type remarquable, qui avait la chance pour nous de parler français, il était prof de français, et qui expliquait, dans une interview très émouvante, il expliquait qu'il ne voulait pas de garde du corps, parce qu'il savait que s'il y avait un garde du corps, première explosion, c'est lui qui était tué. Donc il dit, pas de garde du corps. Il expliquait, en se promenant dans la rue la plus dangereuse face aux protestants, oui, là, on peut assassiner, exécuter, tuer. Vous êtes là avec votre caméra, votre micro, très drôle comme parcours. Vous avez pas mieux, là? Et c'était son quotidien. Et je trouvais ça fascinant. Et je pense qu'on a essayé de l'expliquer. Dieu merci, la paix est intervenue en Irlande. On confondait toujours l'Irlande et l'Irlande du Nord. J'expliquais au musée Ayatollah, il y a la République d'Irlande et l'Irlande du Nord qui fait partie de l'Union Jack de la Grande-Bretagne. Ils avaient du mal. Ils considéraient qu'il y avait l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Non, chers amis, il n'y a pas d'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il y a la République d'Irlande. C'était grâce à vous, parce que certainement parmi vous, il y a des professeurs d'anglais. Il y avait des profs qui écrivaient, mais arrêtez de dire n'importe quoi! Alors j'ai dit, oui, écoutez-les, ils nous disent des choses pertinentes. Alors ça, c'était ma période britannique formidable. Après, je suis rentré, et je suis devenu, alors Brasil de Peter, secrétaire général, au fouet. Donc c'était syndicat, conflit, engueulade, augmentation, et c'était pas RTT à l'époque. C'était promotion et augmentation. C'est les mots que j'entendais tout le temps dans mon bureau. Quand est-ce que j'aurai une promotion? Quand est-ce que j'aurai une augmentation? Pourquoi j'ai pas d'augmentation? Pourquoi j'ai pas de promotion? Quand vous avez 300 journalistes qui travaillent, en général, tous très bien, certains mieux que d'autres, mais comme chez nous, on ne sait pas. Alors là, c'est, je vous le dis très franchement, et maintenant, j'aurai pas langue de bois entre nous. Comme chez nous, on ne sait pas encourager les bons, et puis décourager les pas bons, eh bien, on augmente à l'ancienneté. Puis de temps en temps, il y a une prime. pour les très bons. Comme je disais à un rédacteur en chef, directeur, je lui disais, attends, regarde, t'as vu le reportage qu'il a fait, il est remarquable, il mérite une promotion. Il est là pour passer, il est là pour être payé par rapport à son boulot. Ça, c'est motivant, hein. Alors après, je recevais des gars, je dis, attends, t'inquiète pas, la prochaine fois, c'est pour toi. Là, secrétaire général, j'ai été 3 ans, heureusement, ça n'a pas trop duré. Et puis, j'ai eu une idée folle, j'ai croisé ma directrice générale, Michèle Cotta, femme remarquable, dans le sous-sol de France 2. Il se passe des choses dans les sous-sols. Et je lui dis, écoute, on est un peu nul. On est la seule télévision publique absente à Bruxelles. Non. Si. Il fait quelque chose. Je dis, écoute, on ouvre le bureau. Allez, ouvre le bureau. Ça s'est fait dans le sous-sol de France 2. Donc, en 15 jours, j'ai monté le bureau de France 2 à Bruxelles. Le nouveau directeur est Olivier Mavrol, qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Ça intéresse personne en Europe. Oui, encourageant, hein. On se sent motivé, on se sent soutenu. Mais tu veux nous faire quoi? Des réunions, des tours de table, des claquements de portières, des plateaux devant le Berlaymont. Alors la commission a décidé, le Parlement a décidé, ça intéresse qui? Ben, si ça passe, comment ça passe? Ils seront jamais. Non, attends, fais-nous des sujets. D'accord. Quelques sujets. Le rédacteur, attends, j'ai pas le temps, j'ai pas la place. J'ai la chanteuse Mastru qui est en fin de journal. Et puis il y a un match de foot formidable, on ne pourra pas. Non, on ne pourra pas. On va faire une brève. Dans le plateau 20h, une brève. Donc pendant 4 ans et demi, 5 ans, à Bruxelles, j'ai fait bricolo. Alors j'ai eu l'idée, encore une, ça m'arrive, à l'époque j'en avais, créer une rubrique avec l'énergie qui s'appelait Europe sans frontières. Europe sans frontières. L'énergie, William me dit, tu peux pas enlever le mot Europe, c'est un peu long. Ben, tu peux enlever frontières aussi. Non, enlève Europe. Authentique, hein, belle date. Quand vous le verrez le matin, vous direz, ah, c'est toi qui as enlevé Europe. Ben oui, salut. Alors, on se fait appeler sans frontières. Donc, c'était sans frontières. Voilà. Déjà, oui, la culture typiquement française, les animateurs, les rédacteurs, les directeurs, l'Europe, tu nous, ton plaire. Et on avait cette rubrique, et j'ai eu autre idée, grâce à mes camarades de jeu Londres, Rome, Berlin, de faire une tournée avec Bruxelles, et chacun son tour, le matin, on faisait notre rubrique. Et c'était formidable, parce qu'on faisait 3 minutes en totale liberté. Les correspondants étaient ravis, parce que les sujets qu'ils n'arrivaient pas à passer dans le 13h ou le 20h, il y a télé matin, il y a la rubrique, sans frontières. Alors, tout le monde s'est éclaté pendant des années, c'était comme ça. L'Europe est passée là le matin, mais jamais ailleurs, hein, 13h. Tu m'excuseras, mais attends, à 13h, l'Europe, oh, et... Non, tu ne fais pas, hein. Non, on s'aime bien, hein, mais pas à 13h. 20h, mais il y a un gros coup, hein, toi, du genre, suppression des subventions aux agriculteurs, quoi, là, on prend. Je dis, mais attendez, on ne pourrait pas expliquer le mécanisme, comment les subventions sont distribuées, comment les aides aux industries interviennent, comment les lobbyistes, quel est leur rôle, comment ils fonctionnent. Je crois que c'est intéressant. J'ai dit, attendez, je suis tout seul à Bruxelles. La BBC, ils sont 18. 18. Pas 18 juin, ils sont 18 personnes. Moi, j'étais tout seul avec un technicien et un caméraman de temps en temps. À RDZDF, j'étais 15, chacun de leur côté. Et présent depuis longtemps. Les journalistes français, à Bruxelles, au total, une cinquantaine. Peut-être un peu plus maintenant, je ne suis pas sûr. Cinquantaine. Il y a 100 journalistes européens à Bruxelles. 50-60 journalistes français. Vous voyez un peu le rapport de force. Ça explique aussi le reste, hein. Ça explique aussi notre présence diplomatique, politique, évidente à Bruxelles. Et il y a Le Monde à 3 journalistes, Les Échos 2, La Tribune 2, Libé 1, Le Figaro 2, Le Parisien à Pigiste, France 3, j'ai oublié mon ami Pascal Gardeau, tout seul comme moi, on était 2, pour ça République 2. fat aux Britanniques, aux Allemands, aux Italiens. Les Italiens, c'était un peu une drôle de situation. Hein. Ils avaient une voiture avec chauffeur. La rail, extraordinaire, je crois qu'ils ont l'argent. Et le chauffeur à casquette. Hein. Je crois que c'était un commissaire. Une fois, je vois un gars qui a une voiture avec chauffeur. Je salue, je suis Alberto. Rail, t'es un chauffeur? Ben oui, c'est comme ça. Ah. Moi j'ai un ticket de métro, excuse-moi, je pourrais qu'on était sur la République tous les deux, mais c'était notre façon de travailler. Mais non, mais c'est pas une anecdote, hein. C'est une réalité. On travaille comme ça à Bruxelles. Le nouveau correspondant, François Bonnet, qui va débarquer le 1er octobre, la semaine prochaine, un type formidable. Quand il a demandé être correspondant à Bruxelles, il était venu me voir, il m'a dit je commençais à Bruxelles, j'ai écouté formidable, on parle plein de langues. Parle, à l'époque où la Belgique était un vrai pays, quoi. Maintenant, il paraît que ça bouge un peu, ils ont moins l'Afrique. Et quand il a postulé pour être correspondant, il m'a dit mais quoi, t'es pas bien où tu es? Pourquoi tu veux être correspondant à Bruxelles? Carrément, là, il a un problème de santé, il est malade, il est pas bien, il a un problème de promo. Il a envie d'être peinard. Alors je lui dis, mais attends, c'est un défi. Tu as 35 ans correspondant, tu parles 3 langues, 4 langues, ce qui n'était pas mon cas. Et je lui dis, mais attends, tu vas me faire un boulot d'enfer. Il me dit, attends, ils m'ont tous prévenu que tout ce que je ferais, ils n'intéresseraient pas. Je lui dis, bon, ça motive. Hein. Voilà, service public, France 2, par rapport à l'Europe. Alors, après le nom français, elle est née hollandais, j'ai pris ma valise. J'ai fait le métro, je suis rentré à Paris. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai attendu. On n'a pas fait grand-chose, on s'est planté en des co-responsables, parmi d'autres situations, contexte politique, du nom français. On a mal fait notre boulot. On l'a fait un mois avant le référendum en expliquant la Constitution. Donc on passait pour des turiféraires, des Giscard, qui sont en train de défendre... le travail des Giscard. J'ai fait 3 interviews exclusives de Giscard. Et il refusait TF1, la 3, il acceptait BBC, France 2, ZDF, RAI. Un mec, comment hein. Enfin, un vrai mec Giscard, il respecte le public, hein, et le service public. Je me battais pour faire passer l'interview, mais il dit oui, alors pas plus d'une trente. J'ai entendu, il a des choses à dire, on ne peut pas. Et je servais. Vous avez combien de temps? Écoutez, ça va être très court, président. Ça va être tellement court qu'on va peut-être même pas me voir. Je serai en sorte qu'on voit un peu plus. J'ai fait l'ouverture une fois avec lui, 2 minutes 30. Et on m'a dit, ouais, c'est bien ce qu'il dit, oui, c'est vrai, mais on a perdu un temps fou. Ça faisait 6 mois qu'il travaillait sur la convention. En plus, il y avait un travail, moi je le suivais régulièrement. C'était remarquable. Il était malin. Il a terminé les travaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une tortue sur son bureau. Il a amené une tortue chinoise. Il a amené une salade. Une vraie. La tortue était fausse, mais la salade était vraie. Il a mis une salade devant la tortue. Nous sommes arrivés. Aucun bleu. À vous. À l'image de cette tortue chinoise, on a pris notre temps, mais nous avons abouti. Et j'ai commencé mon reportage avec ça. Ils ont trouvé ça formidable à Paris. Ils me disent, ouais, génial, ton reportage, le tortue, la salade. Puis maintenant, et sur le fond, vous avez entendu quelque chose? Oui, non, c'est intéressant, mais la tortue, la salade, excellent, excellent. Voilà. Ce qu'ils avaient retenu, c'était la tortue, la salade. Et le président Giscard qui concluait les travaux de la Convention et qui portait sur les fonds baptismaux européens. La future constitution qui est morte et née européenne, que je ne trouvais pas inintéressante, qui n'était pas facile à lire, c'est vrai. Et l'erreur stratégique de cette constitution, c'est qu'elle était trop longue. Il fallait faire comme la constitution de Philadelphie, constitution américaine. 8 articles ou 10, je ne sais pas combien, 8, 10, quelqu'un sait. Je crois que c'est court. Mais à rallonge. Trop compliqué, c'est vrai. Quand je parle autour de moi, évidemment, moi je l'avais lu, relu. Je lui dis, mais attends, c'est pas ça, c'est... Ah bon, bah bon, attends. Alors je lui disais au rédacteur en chef, il faut faire ce qu'on appelle des encadrés, avec des points forts, puis expliquer ce que ça signifie, un président pour l'Europe, un ministre des Affaires étrangères, et des structures un peu plus fédérées. Oui, ça intéresse qui? on fait des encadrés sur des dossiers qui intéressent personne, mais là-dessus, ça paraissait pas important. C'est quand même l'avenir quand même de plus de 300 millions de citoyens. Non, voilà le résultat. Moi, je pense que les médias, et je l'ai dit haut et fort plusieurs fois, ont une grande responsabilité, surtout la télé, parce que les premiers médias, en quelque sorte. Bon, TF1, l'Europe, je ne sais pas où c'est. Mais nous, quand même, on avait un correspondant TF1, un correspondant, bon, ça ne sert à rien. Mais nous, on faisait notre boulot, finalement. Je dirais que TF1 avait raison. Ils n'y étaient pas, ils n'y ont pas été. Juste à la fin, conférence de presse finale, ils ont fait une minute. Nous, on y était tout le temps, physiquement, et on n'a pas mieux fait. Et résultat, les Français n'ont rien compris, ou pas bien compris, ou compris ce qu'ils ont voulu comprendre. Ou alors, on a été tellement mauvais dans l'explication, ils ont dit, bon, ben, si c'est ça, on n'en veut pas. Bah oui, ils ont eu raison. Mais je pense qu'on a eu tort. Voilà, moi je m'arrête là, avant de passer à la case médiation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ou on va directement à l'apéro, ou on passe aux questions? Non, préférons encore quelques questions.
On va passer par la case médiateur. Bien sûr, toute cette expérience de grand journaliste de télévision, je viens de vous expliquer et vous faire vivre. Christian-Marie Monod, est-ce que vous avez des questions? Je suppose qu'il y a des questions là-dessus, sinon on passera. Oui?
Ben, je ne sais pas si maintenant.
Oui, Marie? On a une complicité entre nous, je l'ai rencontré il y a 10 minutes. Attends, avant, on va, Marie, voilà, tout le monde profite de ta pertinente question. Tu mets le doigt et c'est le problème. C'est là, c'est vrai, la question de fond. Il y a deux hypothèses. Ou on était mauvais, ce que je crois. Ou les Français n'étaient pas prêts à entendre ce type de débat d'information. C'est possible aussi. Mais tu as raison, on n'a pas été assez didactique, assez clair. Mais il ne faut pas le faire un mois avant. On n'explique pas les choses. La force de Sarko, la campagne électorale, il ne l'a pas faite un mois avant, il l'a faite longtemps avant. Et nous, on aurait dû parler de longtemps avant. Et ça, c'est dramatique. Les Anglais, ils entendent parler de l'Europe toutes les semaines. Il y a un magazine hebdomadaire, elle est ici, mais eux, c'est réactif. C'est pour dire le plus grand mal de l'Europe. Mais eux, c'est la légende. Mais ça a le mérite d'en parler. Et ils en parlent. Chaque fois que je parlais à un journaliste britannique, j'ai enfin, je suis simple, j'ai dit, mais non, t'allumes un maxi. C'est ce que demande les ayatollahs, parce qu'il en a là aussi, lui. Hein. Et ça correspondait, effectivement, à l'attente du lectorat ou des téléspectateurs. Mais c'était réactif. Et l'Europe, il s'y intéressait, mais par réaction. Nous, on ne s'y intéressait pas, c'est encéphalogramme plat. Alors, je ne sais pas, mais j'attends un peu vos réactions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Est-ce que les journaux locaux, qui sont souvent les plus porteurs sur les questions européennes, comme la montagne, est-ce qu'on aurait dû faire mieux, c'est pas difficile, mais est-ce qu'on aurait dû faire différemment, ou effectivement, vous estimez, ça c'est, je vous interpelle là-dessus, que l'Europe, finalement, c'est pas la peine d'en parler, ça ne nous intéresse pas.
Alors la montagne est en haut, comme les autres. Je sais pas si vous
voulez
dire
un mot. Camarade. Non, on se verra après, à l'apéro. Enfin, décidément, oui. C'est pas une rencontre. Non, mais est-ce que parmi vous, téléspectateurs, auditeurs. Non, mais en plus, vraiment, du fond du cœur, ça m'intéresse. Hein.
Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, pensez-vous maintenant qu'avec le nouveau rédacteur en chef, ça va changer? D'abord, pourquoi il a été nommé
récemment? Très bonne question, je vais me la poser. C'est simple, le rédacteur en chef précédent était très fait diversifié. Il faisait du fait libre. Il trouvait que c'était intéressant. Et on s'est rendu compte.
Il y a toujours la concurrence avec les.
Non. Très bonne seconde question. Vous Vous avez tout à fait raison, Jean-François, d'ailleurs, est tout à fait pertinent et remarquable. Je me souviens, dans mon début de carrière, je faisais une audience remarquable à Strasbourg, parce que le joueur régional était sur les trois chaînes. Donc c'était captif, hein. Il n'y avait pas de choix. Trois chaînes, il n'y avait pas de chaîne câblée à l'époque, 72, trois chaînes. Là qu'on était les rois du pétrole. Bon, maintenant, ça a un peu changé. Alors, TF1, effectivement, fait des choix très particuliers. Notamment à 13h. Vous connaissez le 13h de Pernaud. Bon, il fait 50% de part d'audience. 50%. 13 ou 14%, il fait 9 millions de téléspectateurs. Nous, on fait même pas la moitié. Même pas la moitié. On doit faire un tiers. Un tiers. Bon, c'est vrai que le coup du sabotier et tout ça, c'est une réalité. Vous regardez. C'est, bon, et ça marche. C'est vrai que nous, avec Élise Lucet, c'est un choix un peu différent, c'est un choix un peu plus journalistique, thématique, peut-être trop, avec des rubriques, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour en débattre, parce que tout ce que vous direz, je le ferai et je ramènerai à Paris, c'est qu'on trouve que le journal de 13h est un petit peu trop navité, un petit peu assuré, et puis Élise un visage, un regard qui ne plaît pas toujours. C'est un peu injuste, mais bon. Mais je suis d'accord avec vous, c'est
une de
le plus jeune, coiffure, Élise coiffure. Vous avez un nom, une adresse, un styliste, Élise coiffure. Bon. Vous avez tout à fait raison. Là, c'est une des remarques pertinentes. Vous avez raison. Il y a une continuité chez TF1, c'est vraiment, c'est pas du béton pour rien. Hein. Ils construisent la maison, quand elle est construite, elle tient. Hein. Et nous, effectivement, dès qu'il y a un changement politique, il y a un peu du vent dans les voiles, et ça change de chef, de directeur. Alors Thuillier, pour répondre à la question de madame, Thuillier était rédacteur en chef du service étranger, et il avait envie de faire... autre chose, et le rédacteur chef du 20h avait envie lui aussi de faire autre chose. Ça tombait bien, il est coïncident. Bon. Et Thierry, d'emblée, a prévenu en conférence, moi je veux de l'étranger, des enquêtes, du reportage de fond. Ça démarre pas trop mal. Je vous ai vu le journal, je ne sais pas si vous l'avez vu hier soir, commencer par la Birmanie, c'est pas évident. Hein. La Birmanie, c'est où ça c'est... Et puis la prise de bête de la paix, c'est qui ça le... Mais c'est courageux, c'est bien. Et il y a des reportages maintenant en longueur avec des interventions directes de chroniqueurs. C'est un choix. Et ça monte. On est passé de 18% de part d'audience à 18%, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que sur 100 téléspectateurs, il y a 18 qui regardent la 2. Et là, on est à 22-23. En face, ils sont à 39, c'est à 36-37. Donc il y a un léger mouvement de balance, mais dans le bon sens. On se dit, en tout cas, qu'on est dans le bon sens. La direction de la rédaction estime que là, il y a un frémissement qui est sérieux et qui est plaisant. Est-ce que ça va continuer? C'est vrai que quand on habite un homme politique, on sait très bien qu'un homme politique plombe un journal. TF1, t'as bien compris. L'homme politique, il a annoncé dans les titres, et puis il finit en fin de journal. Nous, on l'avance dans les titres, puis on prend le premier tiers du journal. Et les gens s'en vont. Encore lui, encore elle. Ben ça, c'est la maladie infantile de France 2, d'avoir des invités. On croit qu'avoir un invité, c'est ça dynamise, c'est un scoop, c'est formidable, ça fait avancer les choses. On sait que c'est pas vrai. Et en plus, ça on en parlera dans la deuxième partie du débat, c'est que de plus en plus de gens, surtout vous, j'imagine, Internet, les chaînes câblées, maintenant les chaînes hertziennes baissent, c'est irrémédiable, on peut faire ce qu'on veut, même si on met un porno à 20h30, on ne va pas progresser. C'est irrémédiable, il y a un tel choix au niveau de l'info, et au niveau des magazines et des programmes, que les gens, maintenant, choisissent ce qui les intéresse de suite. Même si on passe 3 heures devant sa télé, on zappe. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours la quand on allume la télé, c'est toujours téléphone. Là, on tombe sur le macadam, on tombe sur le béton. Mais on choisit quand même. Mais c'est vrai que vous avez un exemple typique. Le 14 juillet. Le 14 juillet, avant que que Sarko décide qu'il y aura plus grand maître, plus d'interview. Avant, l'interview du 14 juillet, qui était ensemble, TF1 France 2, donc à la même heure, les mêmes moyens, ben vous regardiez TF1, vous regardiez France 2, le son était déjà différent. TF1 plus présent. Nous, c'était pas inaudible, c'est un pense. Vous regardiez l'audience, les gens, tac, ils regardaient TF1. Ils se disaient pourquoi ? TF1, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de grève, il n'y aura pas de RTT, il y aura le son et l'image tout le temps. Et c'est le réflexe des téléspectateurs, ils m'écrivent ça. Parce que je leur dis des fois, mais pourquoi vous regardez et pas chez nous ? Ah, parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'incident sur TF1. Voilà. Cette image, j'allais dire, qui nous marque la culotte en permanence. TF1, sans problème. France 2, on ne sait jamais. Ben oui, mais c'est la réalité, madame. Je suis comme vous, moi, je suis, ça me révolte, ça me met hors de moi, et vous leur dites, mais attendez, c'est le même produit, il parle la même source. C'est gentil. Vous allez à la cuisine quand il y a un accident. Non, mais regardez, non, mais c'est une réalité. Et si vous avez regardé Sarkozy, il n'y a pas longtemps, vous avez écouté TF1 et vous avez écouté France 2, il y avait une différence de son. Pas énorme. Pour quelqu'un qui a tous ses problèmes, il dit tiens, c'est bizarre. Et c'est vrai que le signal.
C'est très bien que quand on allume la télévision, on tombe directement sur TF1, les gens n'entendent
rien. Ah oui, madame disait, on sait très bien que quand on allume la télé, on tombe sur TF1. Ben oui, ça on le sait, mais non, je t'assure, Sarkozy c'était typique. Sarkozy c'était 20 minutes ou 15 minutes après le début du journal, c'était fin France 2. Au début, on a les courbes, c'est marrant. La TF1 c'était très haut, comme d'habitude, ils font 9 millions, hein. Nous on fait 5. Nous on est en dessous à 5, et quand il y a eu Sarko, il y a une petite montée légère. Sur TF1, quelle journée ? Ah, il y a le président qui parle. Madame, je parle de faits. C'est pas un jugement de valeur. Ce sont des faits. Et c'est une réalité. TF1, ce sont pas de médiateurs. Donc ils ne savent pas très bien qui les regarde, ils ne connaissent pas les critiques. Moi je suis médiateur, je sais que les 32 250 courriels que j'ai reçus l'année dernière, 95% c'est négatif. Ah, TF1 non plus dans le journal. Il n'y a pas de coupure de pub dans le journal, il y a des coupures de pub ailleurs mais pas dans le journal. Assez personnel. Alors, bonne question. Le médiateur n'a pas à se prononcer, mais à titre de citoyen et médiateur. Non, mais à titre de citoyen et médiateur, je vais être très clair, je suis contre la coupure de pub, mais pour une augmentation de la redevance. Vous savez combien est la redevance ? Vous la payez tous, maintenant c'est obligatoire. 116,50 €. Vous savez quelle est la redevance à BBC ? 200. Et ensuite, 280 €, je parle toujours. Hein.
Et la RAI,
c'est un peu plus compliqué. Il faut déjà réussir à percevoir, c'est un peu compliqué. Mais les Espagnols, il n'y en a pas. C'est TVE, il n'y a pas de redevance. C'est bizarre, mais c'est également. Enfin, il va y avoir une, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Non, franchement, entre nous, seriez-vous d'accord, prêt à payer 200, allez, 150 € de redevance, donc ça ferait 36 € de plus que maintenant, honnêtement. Non mais, alors, bonne question, bonne remarque, on supprime la pub, comme la BBC. On supprime la pub, parce que le budget, c'est 2 milliards, pour FTV, la France Télévisions, 2 milliards les broutilles, 60% redevance, 40% donc, non c'est 38% la publicité et 2% prestations diverses et variées. Donc, on supprime la pub, donc ça veut dire qu'on supprime 40% du budget, 480 millions, je ne veux pas dire bêtises. La redevance représente 22 centimes par jour. 22 centimes par jour. Est-ce que vous avez quelque chose à 22 centimes entre nous? Rien. Pas, même pas un croissant, un peu de ben rien. Rien à 22 centimes. Là, vous avez, à 22 centimes, vous avez la télévision publique. France 2, hein, je parle de France 2. Parce que y a la radio, Radio France, bon, la 5. 22 centimes. Pourquoi on veut pas, pourquoi on n'ose pas politiquement? Parce que politiquement, évidemment, ça va hurler. Vous allez voir ce qu'il nous annonce le président Sarkozy. Les restrictions sur les médicaments, moins de remboursements, les impôts qui vont légèrement augmenter. Mais toucher à redevance, pas touche, pas touche. Et les impôts locaux que vous voyez comme moi, qui augmente, hein, je suis passé à la montagne. Je paye aussi l'ardement, je vous rassure, je paye aussi l'ardement. Mais les impôts locaux augmentent. On râle, hein, on râle. On touche l'ardement, c'est la révolution. Donc on ne va pas y toucher. Alors si un gouvernement, à gauche comme à droite, hein, avait le courage de dire on augmente l'ardement, on supprime la pub. Allez, franchement, entre nous, soyez d'accord, plus de pub. Et 190 euros d'ordonnance. Je sens que l'apéro va être dur là. C'est obligé d'aller en face. Hein. C'est ça. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Tiens, là. Monsieur le Président, ils sont d'accord. Vous pouvez y aller à 190, vous pouvez la pub. Allez, on va passer à un micro. Allez. Mais tout le monde n'a pas entendu. Moi, je vous ai entendu, mais pas tout le monde.
Alors,
je pense que beaucoup de gens, beaucoup de Français seraient d'accord. À condition, dans l'année suivante, l'année d'après, on ne nous remettra pas de la pub à nouveau. Ah, bah non. Contrat objectif et de moyens, il y aura un contrat avec vous, pas de pub. Pas de pub. Ah si. Ben BBC, il n'y a pas de pub. BBC, pas de pub. Ah non, mais attendez, l'ardement, ce n'est pas vraiment de direction. C'est un problème politique. Donc à partir du moment où il y a décision politique... Non, allez, on va être franc entre nous. On joue franc jeu. Qui est pour une redevance? Allez, soyons raisonnables. À 160, 170 euros et plus de pub. Allez. Bon. Attends, la question mal posée, dites-moi. Un micro à ma droite. À ma droite. Donc à votre gauche, monsieur Deligny. Chut, allez, on écoute le propos.
Alors, c'est vrai qu'en Allemagne, je crois que c'est en gros 16-17 euros par mois que paient les Allemands pour la redevance, alors que si ça tourne sur 10 euros par mois, en gros, 9 euros, quelque chose.
La redevance en Allemagne?
La redevance en France.
Non, mais genre en Allemagne, pour 180, c'est 200, j'ai le chiffre, parce que j'ai un rapport.
Oui, en France, on a un délégué, donc ça fait un rapport. Alors, en Allemagne, c'est vrai qu'il paie en 17 euros. Et il y a de l'activité, mais il y a de l'activité simplement dans la journée, avec en 7-6 heures et pas après 8 heures. À partir de 8 heures, l'activité.
Exactement, tout à fait.
Je trouve que la publicité, ça nous permet de donner la télévision pour en donner l'argent. Pourquoi pas? Ce n'est pas en soi un mal. Moi, je suis aussi d'avis qu'on peut tout à fait gagner un peu plus et avoir de la publicité. Pourquoi pas? Mais ce qu'il faut, c'est qu'on calcule qu'est-ce qu'on va avoir comme produit. Parce que Ah, oui, d'accord. C'est très, très mauvais, il y a toujours très petites informatiques. Tout ce que vous avez dit, vous avez tout à fait dans vos documents, je trouve que les gens ne savent pas les spécialistes de téléspectateurs. On les prend vraiment pour les gamins. Je trouve que ça commence avec ce qu'on entend bien comprendre la parole. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que vous avez télévision. Ah, mais la majorité des enfants, quand on a des émissions qui se font, comme ils en parlaient, ils ont et en plus, je trouve aussi qu'il manque beaucoup d'émissions qui sont vraiment informatives. Alors, sur les projets en Europe, comme vous avez dit, mais aussi sur la société française. Moi, je connais des émissions où il y a au moins 400 rendez-vous fixes toutes les semaines sur les télés publiques où on nous parle de société, où on nous parle de problèmes économiques, où on nous parle des Europe et de l'étranger, mais c'est vraiment de l'information et c'est vraiment un journalisme de recherche.
L'investigation. Fait partie, c'est un bon exemple. L'Allemagne, effectivement, comme la BBC, RDZDF, comme je disais tout à l'heure, le nombre de journalistes qui sont présents à Bruxelles, ça prouve l'intérêt de l'Allemagne. C'est pas seulement une puissance économique, c'est une puissance d'image et d'information. Et ils ont des magazines remarquables, les Allemands, ils sont partout dans le monde, d'ailleurs, sur le terrain d'investigation et d'enquête, et qu'on a beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a une stabilité, parce qu'il y a aussi, vous ne l'avez pas précisé, mais vous le savez par cœur, c'est que l'Allemagne, c'est aussi une télévision de Länder. C'est leur force. C'est comme les régions. Ben voilà, il n'y a pas le pouvoir politique. Vous avez raison. Tout à fait.
Monsieur.
Oui, je suis à l'entendre dans le sens de la. À savoir qu'on a quand même parlé du milliard de la guerre de l'argent, comment récupérer l'argent. Est-ce qu'on doit continuer à avoir de la mobilité? Est-ce qu'on doit augmenter la demande? Je pense que c'est même un peu des deux. Un peu des deux, pourquoi? Pour apporter de l'argent. Et comment on va faire de l'argent? Quand on voit aujourd'hui les émissions, combien d'équipes d'émissions en direct sur le groupe France Télévisions si on oublie les journées télévisées et la reconstruction sportive? Il faut quand même une étude, je ne vais pas faire une nostalgie, hein, je pense qu'il y en a pratiquement pour grand événement. Il y a une époque où tous les jours on a une émission directe. Qui se souvient forcément des équipes vertes, des gens comme l'Église de Provence, en direct, avec des moyens qui sont pas ceux d'aujourd'hui. On a la télévision, la parabole, la transmission par satellite. Hein, c'est du aérien, il y a un salaire à l'aise, je veux dire, sur le Vichy, pour attraper le fil d'eau. Bon. Aujourd'hui, c'est pas possible. On n'a pas ça, on fait la contraire. On prend un risque. Pourquoi tu serais ici? Il ne veut pas lui faire de plus, hein, ce soir à 23h. Faugier, c'est évident. On ne sait pas ce qui va se passer, on peut être très grave, on a des noms des habitants, on ne sait pas. Mais il est aussi. Au pire, il est en antenne, hein, s'il y a un bon départ. Après, il y a quand même une attente, il y a quand même une attractivité de l'émission. Mais à part de la frontière, comme dans le banquier de Jouquet, formidable. Bon, nous devons changer de l'émission, le mercredi, le jeudi, le dimanche à Paris, pour les diffuser ensuite le dimanche après-midi. Très bien, c'est léger, c'est pas aussi nickel, hein, c'est pas de surprise. Les habitants sont tous ce qu'ils font. Il n'y a pas de surprise. Bon, par exemple, d'ailleurs, que la nouvelle version est pas. Bon, il y a fait quelques trucs dans certains journaux de télévision. Bah, bon, pas bon. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir davantage d'émissions en direct? Maintenant, je vois des camions de transmission directe, 2 minutes de direct de François, et que par exemple, non plus, mais pour une tour de l'agence, pour la jeune Vichy, présenter l'équipe. Bah, c'est dommage, attention, hein, quand même.
Devinez que les Grecs, maintenant, ils ont des gardiens avec des camions à la rabote. Devinez que les Grecs, c'est très clairement. En 2002, pour ceux qui ont la chance d'avoir le satellite ou le câble, les émissions françaises passent par le système de satellite, c'est-à-dire toutes les régions de l'Europe. Voilà. C'est très récent. Mais aujourd'hui, à quel prix la minute de transmission par satellite? Je pense que vous pouvez notamment mettre en place plus, mais ça coûte énormément d'argent. Alors l'argent est en gros, mais il faut savoir ça.
Pour les provinces, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas bien le dossier, mais pour l'info, une minute, c'est 1000 euros, à peu près. 1000 euros direct. Mais c'est vrai que, bon, les directs, on les utilise pour les multiplex. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre sur les programmes, d'une part parce que ce n'est pas de mon ressort, de ma compétence. Je suis médiateur de l'info et pas des programmes. Mais je ne sais pas, effectivement, bon, je suis d'accord avec vous. C'est déplorable que de plus en plus d'émissions soient en conserve. Et juste un rappel, le Trouvert, que certains d'entre vous ont peut-être vu, le Trouvert diffusé depuis Orange, c'était le pic total. On a fait 1,5 million de spectateurs. En face, il y avait la 7e compagnie, je ne sais pas quoi, mes genoux, la TF1. Ils ont fait 7 millions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on fait de l'opéra, d'accord avec vous, on va faire l'opéra tous les soirs, mais le Trouvert n'est quand même pas, pour les experts, vous savez que ce n'est pas un opéra très facile. On a fait 1,5 million, le flop total, la plus mauvaise audience de l'année. Et en face, la 7e compagnie, je crois qu'elle était le titre. Pardon? Alors, monsieur André, est-ce qu'on peut, est-ce que quelqu'un peut... Alors, une question là. Et après, on vous écoute.
Parlez plus près.
Attendez, je vous donne la parole juste après.
Ce que j'ai remarqué, finalement, vous avez des émissions complètement déguisées.
Pardon ?
Je dis qu'il y a des choses qui sont complètement déguisées. Je pense qu'on est là aussi.
Vous parlez des programmes. Madame, je vous mets de suite, je l'ai dit tout à l'heure, sur les programmes, je ne peux pas intervenir. Non, mais que vous donniez votre point de vue, je suis ravi, mais moi je ne peux pas vous dire des choses parce que je ne suis pas dans les comités de direction de programme, je ne suis pas dans la sphère des décisions. Et le président aujourd'hui, il n'y aura pas de télé-réalité, il n'y en a pas. Ça, il faut le reconnaître. Allez, oui, je vous écoute.
Responsabiliser donc les spectateurs, est-ce qu'on comptabilise en même temps les gens sans être là en registre la télévision?
Je vous remercie, c'est une très bonne question. Je me souviens de Bernard Pivot, de la réunion de direction quand j'étais secrétaire général, qui disait si on comptabilisait tous les magnétos qui enregistrent Apostrophe, je serais un tabac. Que tout le monde parlait d'apostrophe, et en termes de maths, c'est zéro. Enfin, pas zéro, mais c'est très faible. Et c'est vrai que beaucoup enregistraient, je ne sais pas si cela, et puis on l'écoutait, on le regardait plus tard. Et c'est vrai que Pivot faisait partie des victimes, mais même. Pardon, malheureusement, c'est pas compris. Monsieur. Ça va, avant c'était moi, chacun son tour, hein. Excusez-moi.
Avant de parler des moyens.
Où êtes-vous? Faites pas coucou. Ouais, d'accord. Je l'écoute. Voilà.
Avant de parler des moyens qui vont être augmentés, moi, je trouve qu'il faudrait déjà aussi en débat sur une part d'attente des spectateurs qui est plus ou moins déçue.
Quand vous dites trouver leur compte ailleurs, où?
Je pense à Internet,
je comprends. Ça fait, vous avez raison.
Une part, et d'autre part, justement, pour pouvoir répondre à une attente éventuelle de ces spectateurs,
sur moi, les spectateurs n'ont aucune influence. La seule réponse qu'il peut donner, c'est de ne pas regarder.
Je réponds à madame et puis on va donner la parole à monsieur qui est impatient au fond. Alors, sur l'action du téléspectateur, précisément, votre question est d'autant plus pertinente, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est là pour ça. Le médiateur reçoit entre 100 et 150 courriels par jour de gens qui veulent sa chambre. Je parle que de l'info, hein, des magazines d'info. C'est-à-dire que la hiérarchie de l'information, ça c'est la première préoccupation, les faits divers, la violence de l'image. Quand une dame me dit ma gosse de 4 ans a été terrorisée quand elle a vu l'attentat à Bagdad, qu'est-ce que fait un gosse de 4 ans à 20h devant son poste de télé? Franchement, c'est quand même pas de notre faute. On va cacher l'image, on va dire pour l'image violente, il faut attendre minuit et demi. Non. Le problème, c'est que beaucoup de familles dîne devant la télé et à cause de 3-4 ans devant une explosion de Bagdad, à mon avis, il voit des images plus violentes ailleurs, mais enfin, qu'importe. Même si le présentateur prend les précautions oratoires qui sont, entre nous, hypocrites, quand vous dites attention, ces images vont heurter certaines personnes sensibles, il n'a pas fini sa phrase, la première image, comme on l'a dans la tronche. Bon, mais que font, j'ai fait une émission là-dessus avec un spécialiste des médias et des enfants, Serge Tisseron, qui a écrit un remarquable bouquin là-dessus, qui a dit, les enfants de moins de 8 ans, à 20h, non, pas devant la télé, car effectivement, ils ont la violence de la vie, mais alors, eux, pour eux, fiction, réalité, c'est un peu confondu, hein. Et c'est pas de notre fait. Même si on prévient, alors faut occulter les reportages violents au prétexte duquel des mômes sont à côté de maman, papa, en train de... Et puis les images qui arrivent, non, faut choisir. Les gosses pas devant la télé. Enfin, moins de 5 ans, mon âme l'a dit, j'ai 4 enfants, et moins de 5 ans devant la télé, non. Je trouve que c'est un choix, pour répondre à cette question. L'influence du téléspectateur, détrompez-vous. Tous les courriels que je reçois, c'est pour ça que je vous inviterai... je vous donnerai l'adresse médiainfo, mediateurinfo.france2.fr. Écrivez-moi, je transmets tout le courrier au rédacteur en chef. Toutes les erreurs commises par la journaliste, qui est soulignée par la téléspectateur, il l'a dans la tronche. Et je leur demande aux journalistes de répondre aux téléspectateurs. À 80% ils répondent. D'autres disent rien à cirer. Mais à 80% ils répondent. Ceux qui ne répondent pas, je les prends par l'oreille. Je n'ai jamais chez le patron, un journaliste qui n'assume pas ses conneries, c'est pas un vrai journaliste. Et le patron, Arlette ou Étienne Lénard, leur dit attends, tu réponds s'il te plaît, et si tu as fait une erreur, c'est pas grave. C'est inacceptable, c'est grave. Et ça, c'est nouveau. Chez nous, c'est nouveau. Il y a une interactivité réelle avec vous. Vous ne pouvez pas mesurer, mais c'est vrai. Si vous n'avez pas forcément de réponse, je réponds enfin, je fais répondre, parce que je réponds à 20% personnellement. Quand c'est politique, spécialement sensible, je ne réponds pas aux insultes, je ne réponds pas quand c'est une insulte du genre c'est une grosse, je ne la supporte pas, machin, j'élimine, je l'efface de l'ordinateur, je ne peux pas le voir. Si on dit tel présentateur, c'est un nul, c'est scandaleux ce qu'il dit, partisan et tout, je lui transmets. Je lui dis t'es pas nul, mais enfin bon, je l'ai perçu comme ça. Et il répond. Et puis Jada se répond, pas toujours, mais il répond. Il y a des fois, il y a des présentateurs qui me disent « C'est pas obligé de me filer ça dès le matin, ça peut attendre. » Mais ils répondent, je suis derrière eux, je suis avec mes feuilles de vos courriels, et je leur montre, je dis « Regarde, t'as vu ça ?» Quand c'est bien aussi, mais j'en ai pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça, je reconnais. Si il y en a qui est de la housse à la côte, de la housse à la côte pour l'instant, alors vous êtes d'accord? Bon, oui, ça marche. Laurent, je lui dis non, t'as encore fait un tabac, là, avec son regard de myope. C'est bien, ça fait du bien. Bon, mais je vous assure que c'est pour ça que je vous invite à m'écrire, parce qu'ils le savent après que vous n'êtes pas content du tout. Et faites-le, c'est pour ça que je suis venu à l'invitation de M. Delvis. Parce que... Allez, je vous donne la parole, excusez-moi.
Je pense qu'il y a un problème de fond. C'est, j'apprécie beaucoup l'impôt sur la vie. Mais je n'apprécie pas du tout la manière dont je vous apparaît qu'il y a une scène pédagogique froide. Alors, je ne fais pas des hommes et des femmes, bien évidemment. C'est froid. Je ne suis pas pédagogique, je ne suis pas conscient. Et à la fin, vous appelez par cœur là, sur la chenille, qui est un langage qui termine de citer, il parle en fait du peuple. Et il faut pouvoir savoir ça. Et je crois vraiment que ce comportement pédagogique. Donc je vous faire passer, je vais vous apprendre des choses, même si vous les laissez. Et en plus, il y a la somme sur le pas. C'est pas comme ça. Et pourtant, l'amour est cassé.
Et alors, ce que vous dites est pertinent, mais alors je voudrais juste que vous me précisiez, comme vous dites, c'est froid. Parce que manque de pédagogie, vous avez raison.
C'est froid dans les yeux, c'est froid dans la même part.
Pardon ?
C'est froid dans les yeux, c'est froid dans la même part. C'est en dire plus, c'est froid dans la même part. C'est froid
dans la même part. Entre nous, allez-y. En général, je commence par j'aime bien. Ben, dans le courriel des téléspectateurs, j'ai souvent ce type de remarques. Son sourire. Ben oui. Et je lui ai dit, et je suis français, hein, le courriel. Écrivez-moi, je vous donnerai ma carte tout à l'heure. Et je lui ai transmis, elle me dit, mais ma carte, pourquoi il ne m'aime pas ? Ben, c'est mal. Non, non, j'entends bien. Enfin, un petit peu. Mais ce que les gens disent aussi. Oui, oui, tout à fait, mais il sait qu'il se trouve que son sourire est lié. Ben, j'y peux rien, moi, c'est ce que je lis, moi. Je suis d'accord avec vous. Élise est ravissante. Le micro, un intervenant. Ah ben, attendez. Alors, vous, et après vous.
Allez-y. Oui, bon,
comme chez les potes, tu ne vois pas toujours.
Je voulais juste vous poser une question sur le traitement de la fondation, précisément. Et savoir si c'est certainement une logique dans le journalisme. Alors je prends deux arguments perspectifs, on parle plus souvent du coup on a parlé en tout cas précisément de la question de l'air qui était 20h, on a parlé très récemment de la question de crainte qui a été dans une émission sur France 3 qui s'appelle Grande Nouvelle, c'est une émission politique. Toutes les deux, effectivement, c'est donc des maris fictifs qui ont toujours qui fonctionnent au sein du gouvernement. Et c'est juste savoir si oui ou non c'est une légitimité dans le journalisme et pourquoi on les critique précisément.
Alors, sur le problème, Béatrice, qui est de ma tasse de thé, parce que c'est la 2, crainte, Christine, c'est la 3, savez-vous, sur les 32 000 courriels, combien de courriels j'ai reçus concernant l'affaire Béatrice ? Très très peu. Très très peu. Les gens s'en foutent. C'est le microcosme parisien. C'est les journalistes de télé qui allument, qui critiquent. Mais les gens s'en tapent. À partir du moment où elle est professionnelle. Moi je leur répondais ça aux téléspectateurs. On n'est pas parti. Mais c'est vrai qu'il y a, bon, honnêtement, en France, il y a cette confusion des gens qui gênent un peu. En Angleterre, c'est pas possible. Je l'ai dit, en Angleterre, PPDA ne présenterait plus le journal plus longtemps. Hein, parce qu'il a quand même commis des gaffes déontologiques graves. Bon, et il est toujours à l'antenne. C'est en France. Alors, bon, Béatrice, elle n'a pas commis de faute à part se marier avec un ministre. Non, on est d'accord, hein. Enfin, je crois pas. Enfin, c'est marqué nulle part, en tout cas. C'est pas dans le code des déontologies journalistiques. Mais c'est la pression médiatique parisienne. Je le dis clairement. Je l'ai dit au président, je lui ai dit, voilà, le courriel que je reçois, j'ai dû recevoir de mémoire. Sur les 32 000, je dois recevoir 5 000 concernant Béatrice, sur 32 000. Ça mérite un courant d'opinion, 5 000 sur 32 000, quand elle fait un journal de 5 millions de téléspectateurs. Bon, il y a eu un arrangement, on a invité Béatrice à faire autre chose. Christine, c'est faux cul, on est franc entre nous, on l'enlève d'une émission pour faire une émission politique. Et puis en disant, mais quand bien même elle devrait animer une émission avec son compagnon, peut-être qu'on envisagerait un autre animateur. Non, attendez, là on va... Ou on lui colle une émission, parce que c'est une professionnelle tout à fait de qualité, et puis on n'en parle plus, elle assume. Évidemment qu'elle ne va pas faire venir Bernard, mais enfin... faut pas faire bifig, machin, on est au bord du trottoir, on est sur le trottoir, on est sur la rue, on est à côté, on n'est pas sur le côté, pas de poêle. Non, elle fait une émission, c'est vrai qu'une émission sociétale, comme on dit, aurait été mieux vue qu'une émission politique, mais elle l'a fait exprès, ça c'est du haut-crème, je la connais par cœur, c'est elle. J'ai cohabité avec elle pendant des années sur les deux, mais elle a fait la provoque. Elle a dit, en plus, elle dit, syndicat minoritaire, si machin, bon. Elle n'a pas peur. La présidence lui fait confiance, qui colle une émission. Au téléspectateur de juger, de trouver ses scandales, derrière pas. C'est vrai qu'à la BBC, comme la madame en Allemagne, ça n'existera pas, ça. On n'aurait pas un animateur, une animatrice, avec le compagnon, le ministre, c'est évident. Bon, en France, ça se fait. Ça ne crée pas un mouvement d'opinion, ça crée un mouvement microscopique parisien. Personnellement, moi j'avais transmis une note au président en disant voilà ce que je reçois comme courriel. Je n'ai pas dit attention, fais gaffe, danger sur la planète télévisuelle, Béatrice est dans la ligne de mire. Non, c'était en interne, syndicat CGT notamment, un peu le SNJ, et puis en externe, bon, les politiques, on classique. Mais ça n'allait pas plus loin. Puis les journalistes critiquent Libé dans les pages télé. Et ça mérite de sanctionner. Bon, on a de la housse, tout le monde est ravi. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. L'audience est meilleure. Mais ça mérite. Bon, elle a un magazine. On va voir le magazine. Alors, moi, à sa place, j'inviterais Borloo. Bon, pour les environnements, monsieur Borloo, j'ai une chargée d'environnement. Ah chérie, j'avais pas pensé, excuse-moi. Fallait pousser l'absurde jusqu'au bout. Allons-y, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien. Et on n'ose pas, quoi. Il y a Jacques Martin, l'aurait fait. Il leur a invité Cécilia. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas donné la parole. Oui. Faites comme moi, le numérique.
Toujours en tête de tête. Alors, il y a une différence entre les journalistes de TSA. De quoi qu'on apporte
le salaire. Le salaire. Très important.
Le salaire, je sais pas.
Ah, ça, je peux le dire.
Ça fait combien de temps qu'il
est. Qui
il est. Ça fait combien de temps.
Donc, je vais parler de.
C'est des pipoles. Pour moi, c'est des pipoles. Et les pipoles. Parce qu'on le trouve ces gens-là, on le trouve quand même là, ils font des concerts, ils sont en train de la. Bon, vous savez bien, ils vont avoir un rapport, je pense aussi, c'est un peu dommage.
Très bon, très bon. Très bon, très bon.
À Vendée 2. Oui, je vais bien pour le voir. Je ne sais pas, chacun prend ce qu'il en veut.
C'est Rion, c'est un bon journaliste.
Voilà, tout d'un coup, on est arrivé. Et qui part pour des études. Pour manger, tout le monde.
Je note parce que c'est très intéressant. Voilà. Ouais.
Vous avez été bon en train, tout d'un coup, on est habitué, vous avez des habitudes, au début, c'est surprenant de voir des choses qui déplaisent, je ne sais pas. Par exemple, peut-être que vous, votre papillon, on a agressé certaines personnes. Vous êtes le seul à avoir le papillon.
Mais. Ah non, il y en avait un.
C'est la lecteur. C'est la lecteur. Mais une fois qu'on est habitué à un bon, Cyrillon, d'autres aussi, je pense que la plupart sont bons. Et bien, ils disparaissent. Alors, les autres, ils sont installés, les gens. Je pense que c'est une des raisons que TF1 fait plus.
Mais j'ai tout à fait raison. La pérennité. Tout à fait, si vous avez.
Pour l'information,
c'est tout à fait raison. Le problème de base, c'est la politique. Les politiques s'approprient la télévision publique, c'est le drame, c'est le mal endémique de notre télévision. L'ORTF aurait dû rester l'ORTF, la BBC est restée la BBC, et si on était resté l'ORTF, on est en train de reconstituer l'ORTF à petits pas, en faisant France 2, France 3, France 5, RFO, et pourquoi pas regrouper avec, peut-être, avec, vous captez-vous France 24 ? La France 24, bon, c'est à moitié TF1, moitié France 2. Insensé. Avec un budget de 70 millions. 70 millions, vous faites quoi avec 70 millions ? Rien du tout, vous êtes d'accord, on ne fait rien avec 70 millions. Surtout pas à la télé. Mais on fait parce qu'on a voulu faire plaisir aux rapport de force industriel, monsieur Bouygues. Et si Patrick de Caravite s'était pas battu, il était carrément bouté en touche. Et là, il se profile un nouveau paysage, France 24, prêt avec TV5, et avec une baisse des partenariats TF1-France 2, mais avec une entrée d'une holding publique. Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire si on veut faire une télévision extérieure. Pourquoi faire des télévisions? Parce que Chirac a rêvé une nuit d'une télévision extérieure, payée par les affaires étrangères. Enfin, franchement, entre vous et moi, c'est sérieux ça? Tony Blair, tiens, je vais faire une BBC extérieure, elle existe. Lucy Ward, remarquable télévision extérieure. Je sais pas si les Allemands ont une télévision extérieure aussi, je n'ai jamais vu. Non, bon, pas bon. Ah oui, mais pas. Ah oui, c'est ça, oui. À qui je n'ai pas donné la parole?
J'aurais.
Voilà. J'ai raison à utiliser votre.
Une question en droit technique.
Combien je gagne?
Non, non.
Dès que vous allumez, hop, c'est enregistré, c'est un central.
Comment on peut compter qu'on a le top?
Ah ben non, mais c'est proposé, hein. Il y a, c'est comme les sondages. C'est-à-dire qu'ils font un panel et ils définissent combien d'agriculteurs, de citadins, d'ingénieurs, d'ouvriers. Et donc ils contactent les familles et ils leur collent la télé à l'œil, sur cette cahier, ils ne payent pas leur demande, sur cette cahier. Et puis ils ont un truc Big Brother dessous. Alors, où vous appuyez, quoi que vous fassiez, alors pour les films porno, c'est embêtant, parce que ça se voit aussi, hein, et c'est automatiquement enregistré. Et le système médiamétrie fait que un point, c'est 600, à peu près 650 000 téléspectateurs. Donc, quand on dit journal de TF1 fait 10 points et 50 parts d'audience, alors, part d'audience, c'est par rapport au nombre de gens qui regardent la télé à un instant donné, et le point, c'est 650 000, le point. Moi, mon émission fait entre 2 et 4 points, c'est-à-dire que je fais entre à peu près 1,2 million et 2,4 millions téléspectateurs, selon ce qui se passe avant. Et c'est pas en plus la qualité de l'émission, parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a dans l'émission, ils se la prennent dans le nez, mais c'est par rapport à ce qu'il y a en face TF1. TF1, il y a un magazine remarquable, je ne vais pas le dire, mais qui s'appelle Reportage, qui est très très bien fait, non pas terrible, regardez pas, arrêtez, t'es nul, mais qui est remarquablement fait, qui fait 44%, moi je fais 15, puis ça j'y arriverai jamais, hein, parce que c'est tellement bien fait, et puis moi maintenant je suis doublement décapé, parce qu'on s'entretue au service public. Il y a une émission sur la 3, qui est presque en face de moi, qui s'appelle On va tous dire, je sais pas quoi, un truc plus loin de médiateur aussi, du genre litige avec votre voisin, votre maîtresse, votre frère, votre machin. Bon. Alors, l'expert qui va répondre, reportage. Et puis, j'ai maintenant le magazine qui vient de lancer de la housse, qui s'appelle 13h15, comme dirait quelqu'un. C'est, ça s'appelle comment? C'est à quelle heure? C'est le samedi 13h15. Et qui me baisse un peu ma présence à l'antenne, ce qui fait qu'avant j'étais dans le créneau pub de TF1, donc j'arrivais à 4-5%. Maintenant je suis en dessous du créneau pub, parce que la pub, les gens s'en foutent, c'est tout comme moi, on zappe. Hein. Là je suis en dessous, donc là les gens ils sont sur le magazine de TF1, et alors le médiateur, il y a que des fêlés, hein, des accros. Hein. Tiens, on va regarder Mono.
Merci pour cette information un peu plus technique. Vous voulez simplement ajouter une réflexion plus de fond. C'est en ce qui concerne la comparaison des journaux télévisés une et deux, vous comparez beaucoup. Moi, j'ai un livre que je vous demande de dater. C'est un sujet dans la journée 2 qui ne fait pas trop, et ça, je n'ai pas eu, mais je suis trop fort. Et alors, je suis stupéfait de constater que, par l'émission qui est sur les journalistes en ouverture, vraiment, là, il ne marche pas à l'entrée, il ne faut pas fermer. Hein, on tombe sur même ses vitres, on se lave, pas de changement, pas de suite, peut-être deux minutes après ce que le reportage sportif, vraiment, bref, il ne marche pas à l'entrée. Alors, puisqu'on parle de se démarquer par rapport à la concurrence, faites-le carrément.
Ça, c'est la question de fond. C'est la question de fond qui est posée chaque fois au président dans les forums téléspectateurs quand on se déplace en province. Chaque fois, les gens posent cette question, mais faites décaler. Pourquoi vous faites la même hiérarchie d'infos? L'attentat, l'arc d'ouverture. L'accident de route, parc, deuxième sujet. Le Sarko qui fait son folie, troisième sujet, quand c'est pas le premier. Arrêtez, essayez de vous décaler. C'est vrai, c'est la bonne question. Alors il faudrait que les rédacteurs en chef aient un peu de courage pour effectivement faire différent. Ils ont du mal, parce qu'ils disent « Ouais, mais l'actu, on a tous un peu la même formation, on sort des mêmes écoles, c'est aussi le problème. » Sauf que TF1, ils sortent d'une école, je reste comme nous tous, enfin pour les rédacteurs en chef que je connais, mais avec une obligation de résultat. S'ils sont en dessous, ça ne va pas aller. Il n'est plus rédacteur-chef. Donc il faut qu'il fasse du résultat. Donc il fait de l'audience. Et c'est vrai que Pernod, ben, c'est un vrai bonheur. L'actu, c'est 5 minutes, et après, c'est le sabotier, c'est le village fleuriste, et ça marche 50%. Nous, on rentre derrière à 17. À qui est-ce qui a raison? C'est celui qui fait 50, c'est nous qui faisons 17. Moi, je pense qu'on a raison de continuer à faire ce qu'on fait. Mais des spectateurs qui sanctionnent. Il dit, moi, je préfère perdre. Voilà. À 20h, c'est plus différent. Alors, 20h, c'est curieux parce que PPDA énerve beaucoup et les gens considèrent qu'on entend de moins en moins, qu'on ne voit pas les mêmes phrases, ses implants se voient trop. Bon. Sauf que la fidélité, on regarde le PPDA. Et c'est vrai que le PPDA, il rassure, il est rond, il parle aux gens, il les écoute, on a l'impression qu'ils sont dans leur salon. C'est formidable. Et c'est un petit peu ce que fait de la hausse sur un radium. Ça va Jojo, ça va Pierrot, ah, c'est un pote. Et puis il le dit d'une manière douce, gentillette, et ça marche. De la hausse, ça monte. C'est vrai que David, c'est. Alors je vais vous parler de Bagdad, de tout ça aujourd'hui. Il y a encore autre chose. C'est vrai qu'on fait une info un peu anxiogène. On nous reproche beaucoup. Et. La question de fond, c'est alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'info aseptisée ou on parle brut de fonderie de ce qui se passe?
Oui, oui, une question en cours, hein, parce que le temps avance, je crois qu'on va devoir passer à l'apéritif bientôt. Parce que...
Ah, on va être privé d'apéro, alors c'est sérieux. Vous avez raison. Et tout est tout aussi. Transmettre. Non mais vous avez dit, sur le fond, vous avez raison aussi. C'est vrai que tout est important. Le fond, la hiérarchie de l'info et aussi le cadrage. Si vous faites un présentateur cadré comme ça, c'est sûr qu'il rentre chez vous. C'est captif, hein. Si vous le faites large, avec des images qui bougent derrière, c'est un peu le reproche que nous fait, vous nous faites, que je transmets au rédacteur en chef du 20h, il y a un gars qui intervient en extérieur, il y a une image, la moitié de l'écran, une image qui bouge. Et une image souvent qui est plus perturbante et plus intéressante, parce qu'on sait très bien que c'est l'œil qui perçoit avant l'oreille en télé. Ça, on sait ça. Sauf que des fois, le rédacteur en chef oublie. Alors, le présentateur, le correspondant, ils sont en train de faire une grande démonstration diplo-géopolitique, et puis vous avez une image derrière avec des images violentes, des images qui bougent. Bah, regardez l'image, c'est évident. Alors, c'est vrai qu'au départ, on avait mis l'image à gauche, et on sait qu'on lit, sauf pour certains, de gauche à droite, nous. Si vous avez l'image forte à gauche, et le gars qui parle à droite, bah, regardez à gauche, et vous entendez à gauche. Maintenant, on a inversé. On a enfin compris qu'il fallait peut-être mieux mettre le journaliste qui parle à gauche, donc on regarde à gauche, et on lit l'image de l'écran gauche-droite. Mais si l'image est particulièrement perturbante, Alain Chalgrand, avant-hier ou hier ou avant-hier, était en train de nous parler de Sarko aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la petite Bettencourt. Moi j'étais avec plusieurs personnes à regarder le journal, j'ai entendu, ah, la petite Bettencourt. Ce que disait Chalgrand, c'est fini, hein. Terminé. Donc erreur. Erreur de casting. On met une image neutre avec l'immeuble des Nations Unies, c'est passionnant, on s'en fout. Bon, une image, on sait qu'il est là. Mais si on met une image qui fait tilt, qui a un contenu émotionnel, le contenu intellectuel du journaliste, c'est terminé, il n'y passe plus. C'est le béaba, l'information, tous les cartes de la télévision. Et des fois, ils l'oublient. Ou des fois, ils n'ont même pas visionné les images que vous avez montrées. Alors, une fois, on a parlé de l'euro avec une image, la cruche, c'était 1 euro égale 1,50 $. Alors, c'est gouré, on a mis 1 dollar, 1,50 $. Les gens disent, ça c'est quoi, ça, on en est où, là? Je te le fais à combien, là? Parce qu'on n'a pas vérifié la cruche, on n'a pas été vigilant. Là. Et je note, et alors, pour terminer, sinon on a prévu l'apéro, on a une question.
Pour terminer,
une
dernière question.
Ah non, j'ai déjà donné, hein. Ah, la récidivité, hein.
Vous ne pourrez jamais demander à tout le monde, même
si d'accord.
Dieu
merci. Je parle que de l'info. Ils font 7 millions, on fait 5 millions.
Oui,
c'est imbattable. Mais tout le monde, on est bien d'accord. Mais cela dit, on a pas eu le temps d'en parler, mais je reviendrai, hein, quand vous voulez. C'est Internet, tout ça, ADSL, tous les moyens maintenant de capter, où les gens ne sont plus obligés, j'imagine que vous autres, vous ne regardez plus forcément le journal à 20h. Moi, je ne regarde pas le journal à 20h, je regarde, j'ai d'autres moyens de le regarder, par Internet, par des moyens divers et variés. Donc on ne regarde pas, on n'a pas. La grand-messe, c'est fini. Je crois qu'il faut se le dire. Il faut qu'on en tienne compte. La grand-messe du 20h, c'est bientôt terminé. Et les chaînes hertziennes baissent de plus en plus. Les chaînes câblées montent, et les chaînes parallèles, Internet, tout ça aussi. Alors, je vous donne juste une information. Mediateurinfo.fr, vous m'écrivez et je transmets. Et si vous voulez passer à la télé, sur un thème qui vous intéresse, qui vous a fait réagir, je vous inviterai le samedi dans mon émission à 13h34. Merci en tout cas, je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci de votre attention.
Merci, M. Pétain-Marie-Mono. On aurait pu continuer longtemps. Je pense que finalement, de toute question, on est passé effectivement à l'activité du médiateur. Il y aurait eu encore beaucoup d'autres choses à dire et de dialogue. Mais je crois que le dialogue a été extrêmement nourri. Je pense que là, il y a une opportunité formidable à saisir pour nous tous. Parce que ce n'est pas la peine d'en aller comme ça dans le vide, dans les portes d'attraction du Café des Commerces ou à moins de nous. Et je pense qu'il faut, si quelque chose nous choque dans le journal, puisque c'est le traitement d'information, eh bien, immédiatement, pour ceux qui ont Internet, c'est maintenant la majorité d'entre nous, il faut tout de suite aller sur Internet et puis écrire au médiateur en allant sur l'adresse que vous avez donnée. Je pense que c'est vraiment important. On nous offre une possibilité de nous faire entendre. Alors, comme quelqu'un vient de dire, ça veut pas dire qu'il va pouvoir donner satisfaction à tout le monde, et qu'il va pouvoir influer complètement sur la structure et la hiérarchie du journal. Et enfin, il y a le secrétaire Marie Mounot nous l'a dit, il est communément en relation avec les rédacteurs en chef, avec les présentateurs du journal, avec la direction générale. Je crois que, et je remercie vraiment d'être là ce soir, parce que je pense que c'était une bonne vocation, et bien entendu, ce dialogue. Riche, nourri de nombre de questions, et je pense que nous allons continuer encore longtemps dans ça. Alors, soyez-en vraiment remerciés.
Mais je suis ravi, c'est un grand bonheur pour moi.
J'insiste sur cette opportunité de dialoguer avec vous. Ça me paraît capital. On ne peut pas dire qu'on n'a pas, on ne parlait, etc. si on ne dit pas pour rien nous donner.
Mais, alors, il y a un apéro.
Oui. Alors, on va commencer par parler à l'apéro, partez pas tous parce que c'est l'heure de l'apéro. Maintenant, je voudrais quand même remercier l'équipe du bureau qui a beaucoup fait cette soirée. Je voudrais remercier Jean Carnier qui a fait l'affiche, que vous allez voir ici ou là. Je remercie la ville qui a mis cette salle à notre disposition, qui a fait des affiches, qui a fait aussi nos offres électriques. Et on voudrait également vous remettre symboliquement quelques cadeaux, si vous voulez bien.
Vous êtes du Vichy?
Non, alors justement, si vous voulez bien demander à la personne d'entre nous, c'est-à-dire Madame Douce, de nous voir.
Mais je suis très sérieux, hein. Médiateur Info, France2.fr, vous m'écrivez. Prochain thème samedi sont les chiens. J'ai reçu une centaine de courriels sur, vous dites n'importe quoi sur les chiens, vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. Donc je fais mon émission là-dessus. Et si vraiment vous avez des émissions, des thèmes qui vous agacent, parlez, je serais tellement ravi de vous retrouver à l'antenne. J'aurais fait mon boulot jusqu'au bout. On se retrouve à l'antenne.
Voilà tous les deux. C'est d'abord le livre Vichy Batalier en ballon, qui est offert par la communauté Vichy Batalier. J'en remercie M. le président de la Service pour sa présence. Et donc, VVA, Vichy Batalier, vous offre cet ouvrage. Et puis, quand vous avez un lot, vous avez aussi, non, voilà un coffret, on va vous montrer les faits, voilà un coffret. De
5%. Ah,
voilà.
J'ai goûté il y a une demi-heure. Enfin, il y a une heure.
Tu sais que
c'est ravi. C'est pas du tout. Bravo. Continuez comme ça.
Effectivement.
Moi, je suis bourguignon. Chevalier du Centenay. Mais je reconnais que le 5% est très bien, surtout le blanc.
Et là, vous êtes rouge aussi.
Le rouge aussi.
Et puis,
je pense que. Voilà, je fais tomber les papiers. Voilà, je vous mets l'exemplaire de la fiche. Qui a été réalisé par Jérôme Garnier, le président de la salle.
La félicitation.
Je pense que vous êtes capable de faire un donc, je vais être capable de communication.
Mon président, il va être furieux. Tu fais de la pub.
Je vous annoncer qu'il a fait cette affiche bénévolement.
Bravo, merci. Tu m'enverras une dédicace. Ça va être dans mon bureau.
Alors, merci à Jérôme. Merci à Déléa, à la présidente. Et merci à l'équipe. Merci à vous tous. Merci bien sûr à tout le monde de d'avoir fait connaître notre histoire avec nous. Alors on rencontre des téléspectateurs. Et puis, alors, continuez à dialoguer avec lui par Internet. N'hésitez pas.
Et continuez, France 2.
On va voir à tous. On va rester là et on va continuer à discuter avec vous autour de la
mer.
J'en sais rien,
on l'a posé au début de la conférence. Hein, c'est peut-être pas suffisant.